Alors bonsoir, vous écoutez Radio Campus Tour 99.5 et l'émission ABC des Vegs, l'émission consacrée à l'alimentation végétale et à la cause animale que nous vous proposons chaque mois avec la délégation locale de l'ABS. L'émission est diffusée le quatrième lundi de chaque mois et réécoutable en podcast à volonté sur le site de la radio, radiocampustour.com. Alors j'ai la chance et le plaisir de présenter comme à chaque fois cette émission avec Elisabeth. Bonsoir Elisabeth.
Bonsoir Jérémy.
Alors ce soir, Nathie n'est pas avec nous, on pense bien à elle, on la retrouvera le mois prochain. Alors pour cette émission du mois de mars, nous vous avons concocté une émission spéciale dans le cadre d'une semaine de programmation thématique à Radio Campus Tour, programmation axée autour du sport. À cette occasion, nous allons donc parler de sport et d'alimentation végétale en essayant de vous montrer qu'une alimentation végétalienne est parfaitement compatible avec la pratique du sport. Alors pour cela, nous recevons coup sur coup deux invités. Tout d'abord, nous donnerons la parole à Guillaume, militant vegan qui anime la chaîne YouTube Athlète Éthique, chaîne qui propose des vidéos autour du véganisme. Guillaume est aussi sportif et il a consacré quelques vidéos à la question de la pratique du sport quand on est végétalien. Dans la deuxième partie de l'émission, nous recevrons Jean-Christophe Manusseau qui est le responsable de la commission sport de l'AVS. Alors, Elisabeth, après s'être bien échauffée pour éviter le claquage, on peut lancer ce 19e numéro d'ABC des Vegs. À vos marques, prêts, partez. Partez. Alors Guillaume, bonsoir.
Bonsoir.
Alors tu animes sous le nom d'Athlète Éthique une chaîne YouTube que tu consacres en grande partie au militantisme vegan. Tu es aussi sportif et tu as abordé dans quelques vidéos la question de l'alimentation végétalienne et de la pratique du sport. Sujet qui nous occupe particulièrement aujourd'hui dans le cadre de notre émission spéciale. Alors avant toute chose, Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a conduit à devenir vegan et à t'engager pour les animaux ?
Alors l'histoire de mon chemin vers le véganisme est très simple finalement, et c'est une histoire à laquelle beaucoup de monde, je pense, peut s'identifier. Alors tout simplement, j'ai toujours été le premier à m'opposer, à critiquer assez vivement des pratiques comme la chasse à courre, comme le braconnage, comme la corrida, par exemple, pour parler de quelque chose qui est plus local en France. Et tout en, évidemment, comme beaucoup de monde, rentrant chez moi le soir, mangeant des animaux, mangeant des produits animaux, etc. Et il arrive un moment où, quand on pointe du doigt, les actions immorales des autres personnes vis-à-vis des animaux, vis-à-vis du monde animal, et que nous-mêmes, on participe finalement, sans forcément y réfléchir très sérieusement, à la mise à mort et à l'exploitation d'animaux par millions, voire milliards, il arrive effectivement à un moment donné où on se pose des questions et on se dit, est-ce que je ne suis pas finalement quelque part hypocrite de reprocher aux autres des choses auxquelles moi-même je participe activement chaque jour, on va dire trois fois par jour, parce qu'en général, les gens mangent trois fois par jour. Donc, trois fois par jour, je prends acte dans l'exploitation et la mise à mort des animaux, alors que c'est quelque chose qui finalement est en désaccord total avec mes convictions. Et donc, forcément… je me suis posé des questions, j'ai eu un cheminement, disons, philosophique, personnel, à me poser les bonnes questions, et j'en suis arrivé tout simplement à arrêter de consommer des produits animaux, principalement la chair animale au départ, et puis quand on s'informe un petit peu finalement sur comment se passe l'exploitation des poules pondeuses et la production des œufs, et comment se passe l'exploitation des vaches laitières et la production des produits laitiers, par exemple, on ne peut que finalement, si on est vraiment en raccord avec nos convictions personnelles, franchir le pas du véganisme et arrêter tout simplement de prendre part à toutes ces atrocités qui ont lieu chaque jour en France et évidemment partout dans le monde d'ailleurs.
Alors, tu es venu tout seul dans ce domaine ou alors est-ce que, parce que j'ai vu que tu militais aussi au sein de l'association Vegan Impact, alors est-ce que c'est l'association qui t'a aidé ou est-ce que c'est toi après qui es allé la rejoindre et est-ce que tu peux nous présenter aussi cette association ?
Alors, l'association Vegan Impact est effectivement une association avec laquelle j'ai fait des actions, que j'ai aidé à diverses reprises, en par exemple en filmant quelques vidéos, complètement de manière bénévole. Et puis, donc l'association Vegan Impact, en fait, c'est une des associations en France qui est abolitionniste, donc qui milite vraiment pour l'abolition de l'exploitation animale. Et Vegan Impact le fait au travers de trois axes, disons, l'axe de la santé, l'axe de l'environnement et évidemment l'axe de l'éthique. Voilà. Et effectivement, c'est une action dont je rejoins parfaitement, disons, l'idéologie, mais comme d'autres, hein. Et effectivement, j'ai eu l'occasion avec cette association, par exemple, d'aller faire des sauvetages d'animaux pour les placer en sanctuaire. J'ai eu l'occasion de faire des actions de type happening à Paris, par exemple, où des gens vont, par exemple, se déguiser, des militants vont se déguiser, militantes, et puis on va obtenir des pancartes, diffuser un message, évidemment, abolitionniste et pour dénoncer l'exploitation animale. Donc voilà, elle fait partie des associations en France qui militent vraiment de manière abolitionniste. Et donc, tout simplement, c'est mon idéologie également. Alors, abolitionniste, pour les gens qui ne le savent pas forcément, au cas où c'est un langage que peut-être beaucoup de monde ignore, abolitionniste signifie vraiment militer pour l'abolition totale de l'exploitation animale. C'est-à-dire qu'on arrête tout simplement, complètement, d'exploiter les animaux, de les mettre à mort à la chaîne comme on le fait aujourd'hui. 3 millions d'animaux sont tués à la chaîne aujourd'hui en France, par exemple, par jour. Et donc, vraiment, l'abolition de l'exploitation animale, c'est ça. C'est le but ultime de cette association-là et d'autres. Et c'est évidemment le mien également.
Et l'association Vegan Impact, elle est basée à quel endroit? Notamment, tu parlais de Paris, c'est une association qui se trouve à d'autres endroits en France.
Alors, ils sont basés à Paris, ils ont quelques antennes ailleurs. Quelques antennes d'ailleurs qui se développent, il me semble, de plus en plus, tout simplement parce que la cause animale est une cause qui touche de plus en plus de monde en France.
Et qui prend
Donc
de
ils
l'ampleur.
exactement, donc ils ont une antenne à Marseille et puis ils ont des antennes qui se créent un petit peu partout parce que des gens ont des impulsions militantes et que des fois, plutôt que de créer sa propre association, eh bien on va rejoindre une association déjà existante et puis porter son discours, porter ses valeurs, etc. autre part en France. Voilà.
Guillaume, toi, qu'est-ce qui t'a motivé en fait à créer une chaîne YouTube pour parler de véganisme? Et puis, est-ce que tu peux nous présenter des exemples de thèmes que tu abordes dans tes vidéos?
Bien sûr. Alors moi, ce qui m'a vraiment motivé à la base, j'ai vraiment commencé ma chaîne YouTube en parlant d'un axe sport-nutrition. Parce que finalement, quand on devient vegan et qu'on est un petit peu sportif, on se prend des réflexions dans la figure un petit peu, de manière un petit peu, disons, quasiment journalière. Hein. Tous les jours, c'est comment tu fais pour les protéines, mais tu vas être carencé, tu vas devenir faible, etc. Je vais toujours passer des meilleurs. Et donc, mon impulsion au départ, c'était vraiment de dire, regardez, on peut être sportif et vegan, il n'y a aucun problème d'un point de vue nutritionnel, ni d'un point de vue performance. Donc, ça a été l'impulsion de départ. J'avais simplement envie de montrer cette chose-là. Et puis, en fait, malgré tout, je suis vraiment devenu vegan par éthique pure. Et c'est un besoin pour moi, finalement, de défendre les animaux le plus possible et avec le plus de, disons, le plus de conviction, le plus de détermination possible. Et effectivement, je suis parti vraiment de quelque chose de basé sur la nutrition et le sport. Et je me suis orienté pas mal effectivement vers l'activisme. Aujourd'hui, je fais quasiment que l'activisme. Alors, je fais encore beaucoup de sport, mais ce n'est pas ce que je mets en avant sur ma chaîne YouTube. Maintenant, effectivement, c'est vraiment beaucoup d'activisme, beaucoup de défense de la cause animale. J'essaie de porter le discours au maximum et de toucher un maximum de monde. Voilà.
Alors, quand tu faisais du sport, même si tu en fais encore un peu, tu pratiques le calisthénix.
C'est exact.
Est-ce que tu peux nous expliquer? Moi, c'est la première fois que j'en entends parler. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? S'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent ce sport et si vraiment c'est compatible avec le véganisme, bien entendu.
Bien sûr. Alors, donc je pratique encore beaucoup le calisthénique. Ça, c'est vraiment ma discipline de prédilection. Donc, en fait, le terme calisthénique, c'est vrai que, alors en français, on dit calisthénie. Du coup, moi, je dis calisthénique parce que c'est vraiment le terme anglophone qui s'est vraiment importé un peu partout. C'est vrai que la version française, c'est calisthénie. Maintenant, c'est une discipline sportive qui n'est pas encore extrêmement répandue, mais qui malgré tout prend énormément d'ampleur et de manière très rapide. En fait, la calisthénie, c'est une sorte de Le principe de base, c'est que c'est vraiment une discipline qui se fait en poids de corps. C'est-à-dire que, par exemple, les gens, quand ils font la musculation, généralement, par exemple, ils vont utiliser des haltères, des barres, des choses comme ça. La calisthénie, c'est vraiment en poids de corps. C'est-à-dire que quand on fait généralement, quand on essaie de se muscler, on utilise une résistance extérieure. Par exemple, ça va être des haltères, ça va être des barres avec des poids, etc. Dans le cas de la calisthénie, un peu comme dans le cas de la gymnastique olympique, par exemple, quand on voit des athlètes sur leurs anneaux ou sur les barres, c'est vraiment le corps lui-même qui devient une résistance. Voilà. Et donc la calisthénie en fait consiste à tout simplement utiliser son poids de corps pour éventuellement prendre du muscle, pour éventuellement se construire quelque chose esthétiquement parlant, ou tout simplement vraiment gagner en force. Et d'ailleurs la calisthénie implique très largement tout, encore une fois comme la gymnastique olympique, comme on peut voir aux anneaux par exemple, d'apprendre des figures, de maîtriser vraiment son corps d'être capable de faire des choses que personnellement je trouve assez prodigieuses, ce qu'on appelle par exemple des mouvements statiques, où c'est les mouvements où en fait le corps s'arrête de bouger et on tient une position sans bouger. Comme ça, on a des mouvements qui s'appellent, si jamais des gens veulent aller voir, comme la planche par exemple, la full planche ou le front lever, ou des choses comme ça. C'est des figures qu'on fait comme ça en calisthenics, ce qu'on fait aussi d'ailleurs dans les que font aussi les gymnastes olympiques aux anneaux, etc. Et c'est vraiment une discipline qui est très ludique et qui peut se faire du coup partout. Maintenant, justement, dans la plupart des villes, la plupart des grandes villes, que ce soit en France ou ailleurs, on voit comme ça des parcs avec des barres pour faire des tractions. Des fois, il y a des anneaux, des barres, ce qu'on appelle des barres de dips, etc. Donc, c'est vraiment des complexes sportifs qui se font en extérieur et qui permettent justement de pratiquer comme ça une discipline sportive sans forcément devoir aller à la salle, par exemple, et prendre un abonnement.
Mais alors, le fait de faire des pompes, on pourrait dire que c'est de la calisthénie.
Absolument.
J'ai tout compris.
Voilà.
D'accord.
Voilà, les pompes sont, les pompes étant du coup le mouvement vraiment de base en calisthénie, dans ce genre de mouvement, et après, il y a toujours finalement une progression, et juste par exemple, jusqu'à faire ce qu'on appelle des pompes en full planche, qui consiste en fait à faire des pompes, comme des pompes normales, mais sans que les pieds touchent le sol en fait. Ce qui est un peu, ça paraît un peu fou quand on y pense, mais en fait, c'est vraiment faire des pompes, par exemple, sans même que les pieds touchent le sol. Donc, on est vraiment sur les mains et on fait des pompes sur les mains comme ça, sans que les pieds touchent le sol. C'est vraiment un mouvement très avancé. Mais voilà, il y a toujours des progressions comme ça, ce qui fait que le sport est très ludique.
C'est un travail avec son corps, en fin de compte, parce que là, on doit mieux le ressentir.
Absolument. Absolument, c'est ça. C'est-à-dire que la calisthénie, contrairement à certains autres sports que je respecte beaucoup, mais par exemple comme l'haltérophilie, la calisthénie demande de garder une agilité tout autant qu'on prend de la masse musculaire. C'est-à-dire que si on a vraiment beaucoup de masse musculaire, mais qu'on est très peu agile, la calisthénie sera vraiment très très difficile à aborder. Donc en fait, ce sport implique effectivement qu'il faille toujours garder vraiment une maîtrise totale et parfaite de son poids de corps. Voilà.
Et il y a des compétitions qui existent en calisthénie ?
Alors, il y a des compétitions, il y a les championnats du monde, championnats de France, championnats d'Europe, ça se fait un peu partout, ça se fait de plus en plus, comme je disais, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on trouve de plus en plus sur YouTube, la calisthénie, c'est vraiment un sport qui est beaucoup mis en avant aujourd'hui, et d'ailleurs, qui s'est mis en avant un petit peu de manière accidentelle avec le Covid, puisque pendant le Covid, pendant, disons, le confinement, les gens ne pouvaient pas forcément aller à la salle, puis les salles étaient fermées, et donc, à ce moment-là, la calisthénie, qui consiste à faire du sport en poids de corps, donc on peut faire chez soi, ou en extérieur, a vraiment pris beaucoup d'essor. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est devenu encore plus populaire, entre guillemets, grâce à ça.
Okay. Et donc, Guillaume, en lien avec ta pratique sportive, quels sont les points d'attention que tu apportes à ton alimentation, donc qui est végétalienne, pour couvrir tous tes besoins ? En fait, grosso modo, par rapport aux auditeurs, est-ce que tu aurais des conseils nutritionnels en fait, à donner pour ceux qui seraient sportifs et qui souhaiteraient faire leur transition vers une alimentation végétalienne ?
Voilà, alors j'ai quelques conseils à donner. Le premier conseil que je donnerais, mais parce que je le donnerais à absolument toute personne qui souhaite devenir végétalienne, c'est déjà de se complémenter en vitamine B12. Voilà, la complémentation en vitamine B12 est nécessaire. Donc, qu'on soit sportif ou non, à partir du moment où on devient végétalien, il faut se complémenter en vitamine B12. Ça, c'est la première chose. Maintenant, dans un cadre strictement sportif, je mettrais vraiment en avant le problème de l'apport calorique. C'est-à-dire que les produits animaux sont vraiment très denses caloriquement de manière générale, qu'il s'agisse des produits laitiers ou de la chair animale, que ce soit la viande ou le poisson. Donc, quand on passe une alimentation végétalienne, il est très important de faire attention à ce que l'apport calorique reste à minima le même. C'est-à-dire qu'on voit souvent, par exemple, des gens qui vont se mettre au végétalisme, des sportifs, et qui vont dire « Ah, je commence à perdre ma masse musculaire » ou « mes performances commencent à diminuer ». Et généralement, ça vient d'un apport calorique insuffisant. Parce qu'au lieu de remplacer, par exemple, les 500 grammes de poulet qu'ils mangeaient chaque soir, ils vont continuer à manger ce qu'ils mangeaient à côté, donc peut-être les légumes, etc. Ils vont peut-être ajouter un petit peu de lentilles, mais pas beaucoup. Et puis, boum, ça va être leur repas. Et finalement, ils ont ce qu'ils avaient d'un point de vue calorique avec le poulet, ils ne le retrouveront pas en fait, dans leur nouveau repas. Et donc, il y a une insuffisance calorique qui se crée. À partir de là, quand on est en déficit calorique, et ben la masse musculaire diminue, etc. Donc, ça vraiment
dire,
le.
Ouais. Ça veut dire que s'il mangeait 500 grammes de poulet, il faudrait qu'il mange 500 grammes de lentilles.
Il faudrait qu'il mange 500 grammes d'un produit qui soit caloriquement équivalent au poulet. Voilà. Et a fortiori, par exemple, s'il s'agit effectivement de personnes qui font des sports de force, que ce soit musculation, haltérophilie, crossfit ou même calisthénie, du coup. Effectivement, il faut s'assurer qu'il y a un apport en protéines qui soit suffisant et en tout cas, à peu près similaire à celui qui était déjà consommé auparavant. Voilà. Donc ça serait vraiment le premier conseil, donc apport calorique. Le deuxième, ça serait de se familiariser avec les protéines végétales, de savoir où je peux trouver des protéines végétales qui soient, disons, efficaces. C'est-à-dire, par exemple, si demain, j'arrête de consommer, moi, qui mange des produits animaux, j'arrête de consommer justement du poulet, faut pas dans ma tête que je dise « Ah, bah, je vais consommer, je sais pas, je vais consommer que des légumes, par exemple. » Non, il faut consommer une sorte de protéines qui soit quasiment équivalente. Donc, se familiariser, c'est apprendre quelles sont les sources de protéines assez fortes. On a par exemple, les plus simples, ça va être de remplacer directement avec, par exemple, du tofu, du tempeh, ou du seitan. Le seitan, c'est du gluten de blé. Et le tofu et le tempeh sont faits avec du soja. Le tempeh, c'est du soja fermenté, et le tofu, c'est du soja texturé. Donc ça, c'est déjà trois sources qui sont en plus, généralement, qu'on trouve très facilement aujourd'hui et qui sont ressemblantes aux produits justement que les gens aimaient, par exemple, comme la viande ou le poulet. Maintenant, on trouve des choses qui sont très similaires d'un point de vue gustatif, d'un point de vue texture, mais en plus d'un point de vue protéinaire aussi. C'est-à-dire que d'un point de vue protéine, on est quasiment dans des équivalences. Donc voilà, et puis après, effectivement, on sait tous que les lentilles sont une bonne source de protéines, on a les pois chiches, on a par exemple le pain intégral, vraiment certaines céréales, etc. Donc on a beaucoup de sortes de
haricots, oui, il y a quand même
haricots, voilà. Et il y a beaucoup de choses. Donc mon deuxième conseil, ça serait vraiment de savoir par quoi je vais remplacer mes protéines et pas faire l'erreur de manger des aliments qui auront une teneur justement faible en protéines. Voilà. Et si je devais donner un troisième conseil, ça serait d'augmenter vraiment lentement, progressivement son apport en fibres. Parce que la population française, de manière générale, est assez carencée en fibres. Et c'est vrai que les fibres ne se trouvent pas dans les produits animaux, hein, c'est seulement dans les végétaux. Et c'est vrai qu'on entend souvent des gens dire, bah, depuis que je suis végétalien, par exemple, j'ai beaucoup de ballonnements, ou j'ai beaucoup de flatulences, ce genre de choses. Et en fait, c'est un lien avec l'apport en fibres. Et donc, je conseille vraiment aux sportifs, et même la plupart des gens en général, mais c'est vrai aussi pour les sportifs, parce qu'ils ont souvent un apport calorique plus élevé que le reste de la population, c'est d'avoir un apport en fibres plutôt léger au départ, et justement ne pas d'un seul coup passer de « je ne mange jamais de lentilles » ou « je ne mange jamais de pois chiches » à « demain, bah, je vais manger 500 grammes de lentilles d'un seul coup ». Parce que là, c'est la catastrophe assurée. Donc là, vraiment, on en rigole, mais c'est vraiment un problème pour beaucoup de monde.
Je pense qu'on est tous à peu près passés par là à un moment donné.
Et je pense que c'est un conseil qui n'est pas assez justement donné par la plupart des gens, et j'insiste là-dessus. Faites attention à votre apport en fibres. Les fibres sont excellentes pour la santé. On sait qu'elles réduisent, par exemple, certains risques de cancer. Mais il faut vraiment y aller progressivement, le temps que la flore intestinale vraiment s'habitue à ce nouvel apport en fibres. Voilà. Donc ça serait vraiment mes trois conseils.
Et d'après toi, donc, cette alimentation végétalienne est-elle compatible avec la pratique de tout type de sport, y compris de haut niveau ?
Alors, pour moi, oui, clairement. Maintenant, ce qui est le plus intéressant, c'est de savoir ce que dit la science à ce sujet-là. Il n'existe aucune donnée scientifique aujourd'hui qui puisse nous orienter vers la possibilité que non, être végétalien et pratiquer tel sport ne soit pas possible ou ne soit pas optimal. Voilà. Donc, d'un point de vue scientifique, déjà, on sait qu'il n'y a aucune donnée qui dit non, vous ne pouvez pas être végétalien, par exemple, et être haltérophile, être, je ne sais pas, rugbyman, j'en sais rien. Voilà. Maintenant, on a effectivement des sportifs de très, très haut niveau dans la plupart des sports aujourd'hui. Si on prend l'exemple, par exemple, du bodybuilding, on a un bodybuilder, par exemple, qui s'appelle Nimai Delgado, qui est végétarien de naissance et qui est le premier bodybuilder à avoir été dans la catégorie de niveau maximum, qui est l'IFBB Pro. Donc, c'est vraiment une catégorie de bodybuilding qui est vraiment au plus haut niveau. On a un haltérophile qui a battu des records olympiques, qui s'appelle Kendrick Faris, un Américain, qui est végétalien depuis 2014. On a Patrick Baboumian, qui lui est un strongman. Donc, les strongman, si vous voulez, c'est les gens qui font de l'haltérophilie, mais qui, par exemple, on a déjà vu, par exemple, ils tirent des voitures avec une corde, voilà, ils soulèvent des voitures, ou ils soulèvent des choses très, très lourdes sur de courtes distances. Voilà, donc lui, c'est ce qu'il fait, par exemple. On a Lewis Hamilton, que tout le monde connaît, qui est, peut-être dire une bêtise, mais peut-être au moins quintuple de champion du monde de Formule 1, quelque chose comme ça. La Formule 1 étant un sport qui demande énormément de concentration et de capacité physique, mais aussi intellectuelle. On a Scott Jurek, qui est un ultra-marathonien, donc c'est vraiment quelqu'un qui court sur de très, 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 très longues distances, un ultra-marathonien. Donc voilà, on a vraiment des sportifs de très, très haut niveau dans un grand nombre de disciplines qui sont végétaliens, qui le sont depuis longtemps, qui ont gagné des titres en étant végétaliens depuis déjà quelques temps. Et voilà. Donc, mon idée là-dessus, c'est qu'il n'y a vraiment aucune contradiction au sport et au végétalisme. Que ce soit scientifique ou mon avis personnel, en tous les cas, il n'y a rien qui laisse à penser qu'on ne puisse pas être végétalien et être vraiment extrêmement performant dans son sport de prédilection.
Guillaume, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que dans ta pratique sportive, tu as rencontré parfois des attitudes négatives par rapport au fait que tu sois végane et comment tu y répondais ?
Ouais, j'ai jamais vraiment rencontré des attitudes très très négatives, c'est-à-dire que j'ai pas eu de gens qui m'ont vraiment abordé de manière, disons, agressive ou ce genre de choses.
Ils avaient peur de toi.
Ouais, peut-être. Non, c'est plus généralement du scepticisme et une ignorance la plupart du temps bienveillante, en fait. Parce que c'est vrai que en France, en tout cas, il y a vraiment très très peu d'informations qui circulent sur l'alimentation végétalienne. C'est-à-dire qu'on est obligé vraiment tous de faire nos recherches, en fait. On a quelques sites maintenant qui se créent, par exemple l'Observatoire de l'alimentation végétale, mais on n'a pas de choses d'un point de vue officiel et vraiment influent.
Validé.
Par exemple, un corps qui appartient au gouvernement qui parle du végétalisme et qui en fait vraiment la promotion ou qui dit, voilà, vous pouvez au moins être végétalien et en bonne santé. Alors, l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, s'y est mise. Elle a publié une note, par exemple, il me semble, il y a 2 ans, en disant que... par rapport à l'alimentation végétalienne dans les cantines, en disant il n'y a aucun risque de carence en protéines, par exemple, si on met des menus végétaliens à l'école, tout simplement parce qu'à partir du moment où l'apport calorique est suffisant, il n'y a pas de risque de carence en acides aminés particuliers. Voilà. Donc, on a l'ANSES, qui est un organisme du coup, de référence là-dessus, commence à s'y mettre et commence à dire effectivement que le végétalisme est viable, etc. Mais c'est vrai qu'il y a très peu d'informations qui circulent. Donc forcément, chez les sportifs, eux qui ont vraiment, vraiment peur, on va dire, de perdre ce qu'ils appellent leurs gains, donc vraiment perdre leur masse musculaire, etc., pour eux, c'est encore plus difficile de se projeter là-dessus. Et donc voilà, j'ai eu effectivement quelques réactions, souvent un peu, parfois sur la question du goût, par exemple, mais comment tu fais pour manger hein, ou tu manges des trucs dégueulasses, je ne sais pas quoi. Et puis d'autres, ça va être effectivement, comment tu vas... Moi, j'ai peur de perdre ma masse musculaire, etc. Je vais pas manger que des légumes. Souvent, il y a une ignorance par rapport au panel, disons, d'aliments qu'on peut manger aussi en étant végétalien. Voilà. Donc, j'ai eu quelques réactions. Je pense que la meilleure des choses à faire, c'est simplement de répondre à ces gens-là de manière totalement bienveillante et de leur donner les informations et de pas hésiter à leur dire, justement, de faire des recherches d'une part et d'autre part, peu importe leur sport, de leur dire. Dans ton sport, recherche les gens qui sont végétaliens. Voilà. Par exemple, si tu fais du bodybuilding, si j'ai des bodybuilders à la salle qui vont me parler de végétalisme et tout, qui vont être très sceptiques, je vais leur dire, regarde telle personne sur Instagram. Souvent, la plupart sont des influenceurs ou sur YouTube. Je leur dis, va voir machin, hop. Et puis, ils vont dire ce qu'ils mangent par jour. Ils vont te faire des journées dans mon assiette. Donc, c'est-à-dire que pendant toute une journée, ils disent ce qu'ils mangent, etc. Et en fait, ces gens-là se disent, ah ouais, putain, c'est vrai, on peut vraiment être végétalien et être vraiment une grosse baraque ou je sais pas quoi. Donc, je pense que la meilleure chose à faire, c'est effectivement se leur dire, dans ton sport, regarde les gens qui sont végétaliens. Si nous-mêmes, on les connaît, on peut leur dire. Et puis comme ça, ils vont faire la recherche et puis ils se rendent compte qu'effectivement, il n'y a vraiment aucune manière de s'inquiéter. Voilà.
Parce que c'est vrai que ça commence en France un petit peu, mais quelqu'un qui veut devenir végétalien, qui est sportif et qui s'adresse à un diététicien ou une diététicienne, malheureusement, les formations des diététiciens sont encore très loin du végétarisme. Hein.
Ouais, ouais.
Vraiment, et là, il y a un sacré travail à faire aussi. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Au niveau des cantines, ça a bien avancé, puisque maintenant, normalement, chaque cantine doit proposer un menu végétarien par semaine. Bon, mais il y a toute une formation derrière de tous les professionnels qui n'est pas encore au point, je pense.
Ouais, je pense que sur la diététique, ça va venir. J'ai quelques connaissances qui ont étudié justement la nutrition et qui m'ont dit que dans leurs écoles, effectivement, c'est encore difficile. Il y a beaucoup disons, de conflits à ce niveau-là entre justement ce qui peut être enseigné et les connaissances des gens qui sont végétaliens, qui ont fait leur recherche, qui connaissent les résultats des études scientifiques, qui savent vraiment ce qui se dit à ce niveau-là, et qui en fait entrent en conflit avec leurs professeurs d'une certaine manière parce que il y a un décalage en fait entre l'enseignement et les connaissances maintenant actuelles. Donc, ouais. Je pense que ça va venir. Je pense qu'il faut vraiment que l'ANSES ou que ce genre d'organisme de référence vraiment mette la main à la pâte et vraiment dise voilà, enfin c'est clair. Maintenant, il y a pas à discuter. Les données sont là. Voilà, on peut devenir italien, être en bonne santé, c'est viable. Et en plus, ça permet de réduire les risques par rapport à certaines maladies, comme par exemple les maladies cardiovasculaires ou certains cancers. Voilà, c'est des choses qu'on sait maintenant. Mais effectivement, je pense qu'il va falloir attendre encore un petit peu. Et pour les gens qui sont déjà diététiciens, déjà nutritionnistes, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose, je crois, si ce n'est les inviter en fait, à eux-mêmes à faire des recherches aussi, finalement, et puis s'intéresser à ce que disent vraiment les données aujourd'hui, quoi, et pas juste que les données disaient il y a 40 ans,
oui,
ou
oui.
20 ans, ou 10 ans quand ils ont passé leur diplôme, oui. etc. C'est, voilà.
Ouais, on avait reçu dans une émission l'année dernière Astrid Prévost, qui est nutritionniste, qui s'est spécialisée dans l'alimentation végétalienne, et qui disait effectivement qu'elle allait chercher beaucoup de références à l'étranger, parce qu'il y a d'autres pays, notamment au niveau nord-américain, notamment au Canada, où là, par contre, il y a des organismes très officiels qui sont déjà positionnés sur le fait qu'on pouvait tout à fait être végétalien et être en pleine forme.
Mais c'est voilà, ouais.
Y a encore un travail.
Ça n'a pas l'air de marcher beaucoup aux États-Unis, parce qu'il y a tellement de gens qui sont obèses, malheureusement. Donc là, il y a une faille entre toutes les études qui se font là-bas et la réalité sur le terrain.
Après, justement, je reviens sur ce que tu disais. Il y a un organisme de référence aux États-Unis qui est souvent cité par les végétaliens. C'est l'Academy of Nutrition and Dietetics. Donc, et c'est cette académie-là qui regroupe plusieurs, vraiment des dizaines de milliers de praticiens professionnels, donc en nutrition et diététique, ont publié à plusieurs reprises, je crois à deux reprises, vraiment ce qu'on appelle une revue systématique, et où ils disaient effectivement que l'alimentation végétalienne, à partir du moment où elle est planifiée et adéquatement supplémenté, convient à tout le monde, à tous les âges de la vie, qu'il s'agisse des enfants, des femmes enceintes, des personnes âgées, etc. Donc, et ça, c'est vraiment l'organisme de référence aux États-Unis et qui s'appuie justement sur toute une pléiade d'études scientifiques pour faire justement pour arriver à leur conclusion, quoi.
Ouais. Et là, on est encore très loin en France avec les enfants, les femmes enceintes ou même les personnes âgées où on leur dit il faut remanger de la viande, il faut manger du poisson parce que sinon vous allez manquer de protéines, etc.
Bien sûr. Et on n'est pas aidé d'ailleurs, dans la petite parenthèse là-dessus, on n'est pas aidé parce que par exemple, je me rappelle, j'avais fait une vidéo là-dessus. Il y a quelques temps, bon, c'était il y a quand même peut-être 3-4 ans, quand Agnès Buzyn était encore ministre de la Santé, elle était passée, je sais plus, peut-être sur CNews ou sur une émission comme ça, en direct, et avait dit qu'il fallait manger de la viande pour avoir des protéines. Enfin, clairement, et que si on mangeait pas de viande, on aurait des carences en protéines. Donc, en tant que ministre de la Santé, dire ça, c'est quand même affolant, passer les années 2010, quoi. Donc oui. On a un tel retard à ce niveau-là et on n'est pas aidé justement par les instances disons officielles et par notamment certaines personnalités politiques donc qui sont censées être de bonne foi, je ne sais pas, mais qui sont en tout cas censées connaître le sujet. Mm-hmm. Donc voilà, c'est…
Et puis, on ne va pas parler politique, c'est vrai, mais il y a aussi pas mal de lobbies, tous les lobbies de la viande et des produits laitiers derrière.
Bien sûr.
Qui poussent, voilà.
Et c'est bien sûr.
On n'avance pas très, très vite non plus.
C'est sûr.
Alors, Guillaume, une dernière question, avant que tu présentes le morceau que tu as choisi pour la pause musicale. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets en termes de vidéos sur ta chaîne YouTube? À quoi tu travailles en ce moment?
Alors, il s'avère que récemment, j'ai beaucoup travaillé sur un projet vidéo, un gros projet vidéo. Je vais pas dire exactement ce que c'est parce que ça va être une sorte de surprise, mais j'ai travaillé sur quelque chose d'assez long, qui m'a demandé de faire beaucoup de recherches, voilà. J'espère que ce projet-là aura beaucoup de vues, beaucoup de succès. C'est vraiment orienté encore une fois activisme, exploitation animale, dénonciation. Voilà, et puis à part ça, voilà mon but, je vais quand même refaire des vidéos, j'ai deux KO, mais je vais refaire des vidéos de sport. Hein. Je pratique encore beaucoup la KSNI, moi-même je progresse encore. Je vais refaire des vidéos là-dessus. Je vais refaire quelques vidéos, je pense, aujourd'hui dans mon assiette, parce que c'est vrai que les gens aiment bien savoir ce que, par exemple, des fois, ils me demandent ce que moi je mange, quelles sont mes sources de protéines, comment je fais justement pour avoir tel ou tel nutriment. etc. Voilà, donc je vais faire là-dessus. Puis les gens aiment bien aussi avoir des idées de recettes, finalement. Mm-hmm. Et puis, évidemment, je vais faire encore beaucoup d'activisme parce qu'il y a encore tellement à faire à ce niveau-là. On tue 3 millions d'animaux par jour dans les abattoirs en France, près d'un milliard à l'année. On a tellement d'animaux qui sont dans des conditions absolument abominables en France et ailleurs. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi de défendre la cause animale. Donc, vraiment, ça va vraiment être axé là-dessus. Voilà. Je fais tout le temps d'activisme après. Et voilà.
Très bien. Merci beaucoup,
Guillaume. Quelle énergie tu as ? Comment tu peux avoir autant d'énergie alors que tu es végane ? Voilà, là, vraiment.
c'est le grand paradoxe, ouais.
Voilà.
Bon, merci, Guillaume. Pour les auditeurs qui souhaiteraient te suivre, ils procèdent comment, du coup ?
Alors, c'est Athlète Éthique, tout simplement. Donc, Athlète Éthique sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me chercher sur YouTube. Vous me trouverez très facilement. Voilà.
Très bien. Eh bien, merci. Alors, pour conclure, est-ce que tu peux présenter le morceau que tu as choisi pour la pause musicale ?
Ouais, alors, c'était difficile pour moi parce que j'écoute énormément de choses. J'écoute du classique au métal en passant par d'autres choses. Mais du coup, je voulais mettre Chop Suey, System of a Down, parce que c'est un morceau que qui m'a un peu marqué quand j'étais plus jeune.
Alors, Jean-Christophe, bonsoir. Tu es membre de l'ADF et plus particulièrement, tu es le responsable de la commission sport de l'association. Est-ce que tu peux nous expliquer tout d'abord ce qui t'a conduit à l'alimentation végétale et à t'engager au sein de l'ADF ?
Alors, pour moi, ça a été tout un processus progressif, on va dire, pour arriver jusqu'à l'alimentation végétarienne. D'abord, il y a eu différentes phases. Disons qu'au début, j'étais attiré par tout ce qui était bio. Et puis ensuite, j'avais envie de régler des problèmes digestifs et des problèmes de peau. Donc, je suis allé voir un dermato qui m'a conseillé d'enlever certains aliments de mon alimentation. Et comme ça, c'est comme ça que de fil en aiguille, je suis arrivé jusqu'à l'alimentation végétarienne. Et j'ai bien vite vu les avantages que ça pouvait avoir. Et ensuite, évidemment, il y a eu aussi des lectures qui m'ont fait comprendre le problème aussi au niveau éthique. Et donc, je suis devenu végétarien en 2010. Et après, j'ai continué mon cheminement, ma réflexion, et je suis devenu végane en 2015. Et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai rencontré des gens de l'AVF. Et comme j'étais passionné de course à pied, j'ai eu l'idée de leur proposer de créer une équipe végétarienne dans l'AVF. Et c'est comme ça que j'ai créé un rendez-vous hebdomadaire au bois de Vincennes où on se retrouvait pour courir un samedi sur deux. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à. Enfin, c'est comme ça qu'on a créé petit à petit une équipe. Et dans cette équipe, qui est toujours active aujourd'hui, le but, c'est de participer à des courses et de montrer un petit peu à tout le monde qu'on peut tout à fait avoir une pratique sportive soutenue tout en ayant un régime végétarien ou végétalien.
Ok, donc si j'ai bien entendu, tu fais de la course à pied. Et dans cette commission sport de l'AVF que tu animes, il n'y a que de la course à pied, il y a d'autres sports, il y a
Non, il n'y a que de la
comment?
course à pied. Il n'y a
Il n'y
que
a
de
que
la
de la
course
course
à
à pied.
pied.
Et vous êtes
Ouais.
combien actuellement?
On est en gros entre 10 et 20, ça dépend des moments. Après, bon, évidemment, il y a la pandémie qui est passée par là et qui a fait que toutes nos activités ont été arrêtées. Et là, ça a repris que depuis quelques mois où on recommence à participer à des courses. Mais disons que là, la dynamique, elle a été un petit peu freinée, évidemment. Et que voilà, on est en train de redémarrer tout ça. Mais ça a été, pendant longtemps, ça a été dur. Déjà, on pouvait pas courir en groupe. Et en plus, on devait courir très près de chez soi.
Ouais.
Donc, ce n'était pas évident.
Ouais.
Mais bon, voilà, on a.
Alors, quand on dit course à pied, c'est marathon, semi-marathon, et puis il y a d'autres courses, j'imagine encore plus que le marathon. Moi, j'avoue que je ne suis pas du tout sportive, donc je n'y connais rien. Alors, tu peux nous expliquer, je ne sais pas, Jérémy, toi, je crois que
Alors
tu
moi,
n'es pas très sportif non plus,
je suis
hein?
pas trop sportif, mais ça m'intéresse effectivement. Il y a d'autres sports qui sont pratiqués par des membres de l'AVF qu'on puisse positionner ou
Alors nous,
voilà.
on est surtout sur la course à pied et le triathlon.
D'accord.
On est sur ces deux sports-là. Après, il y a d'autres.
Le triathlon, tu peux peut-être resituer parce que ça implique trois sports, peut-être pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, ça implique
Ouais,
quoi
alors
comme
nous,
sport?
en fait, on fait de la course à pied type semi-marathon, marathon. On fait aussi du trail. Donc ça, c'est de la course à pied, mais plutôt nature, sur des distances qui peuvent être longues. On fait aussi de l'ultra-trail, donc on fait des courses de plus de 50 km, entre 50 et 200 km à peu près.
Oula, ouais.
Et puis, il y a quelques membres dans l'équipe qui font du triathlon, et le triathlon, c'est un mélange de trois disciplines, natation, vélo et course à pied, où en
D'accord.
fait, il y a différents formats, plus ou moins difficiles, et le but, c'est d'enchaîner ces trois pratiques dans l'ordre que je vous ai cité.
D'accord.
Et voilà.
D'accord. Et alors, vous êtes tous, là, ton groupe, vous êtes tous véganes? Ou il y
Non,
en a certains qui sont...
on n'est pas tous véganes. Non. Il y en a qui sont végétariens, d'autres qui sont véganes, ça dépend. Ça dépend.
D'accord. Et
D'accord.
alors donc, justement, quand on est sportif et végétalien ou végane, quels sont les points d'attention importants
Elisabeth,
à
peut-être
suivre?
avant de poser cette question-là, il y avait parce que au-delà de l'organisation effectivement d'événements sportifs avec des membres de l'AVF, est-ce que vous avez d'autres missions qui sont associées à cette commission sport de l'AVF?
Alors nous, comme je vous ai dit tout à l'heure, le but c'est d'essayer de montrer que la pratique sportive est compatible avec un régime végétarien. Donc c'est pour ça qu'on a un t-shirt sportif, on participe à des courses, on est présent sur les réseaux. Après, ça arrive qu'on réponde à des interviews comme on fait aujourd'hui, mais on n'a pas d'autres missions particulières.
D'accord, très bien. Excuse-moi, Elisabeth, tu peux
lancer
ta question.
Donc, qu'est-ce qui est important quand on est sportif et végétalien ou vegan et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait devenir, enfin, qui est sportif, mais qui voudrait devenir vegan pour qu'il puisse couvrir tous ses besoins nutritionnels?
Alors, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que dans l'alimentation végétale, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour couvrir les besoins des sportifs. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il y a des grands sportifs, on en parlera peut-être un peu plus tard, il y a même des sportifs de haut niveau qui sont véganes ou végétariens et qui performent aussi bien que d'autres. Donc, il n'y a pas vraiment de souci à ce niveau-là. Ce qu'il faut surveiller, c'est évidemment d'avoir une alimentation équilibrée. Mais ça vaut pour tout le monde, hein, pas que pour les véganes, mais il faut aussi veiller à bien avoir les apports nutritionnels dont on a besoin et d'avoir des apports en termes de glucides, de lipides et de protéines. Et ça, en fait, c'est pas quelque chose qui s'improvise. On ne peut pas se dire je vais monter en puissance en termes de sport et manger un peu n'importe quoi. C'est vraiment quelque chose de complexe. L'alimentation, c'est un sujet très complexe et d'autant plus complexe qu'en fait, on n'est pas égaux face à l'alimentation. C'est que chacun a ses particularités et ce qui est important, c'est de déterminer ce qui est bon pour soi. Après, évidemment, il y a des règles communes. Que j'ai édicté. Donc, il faut manger des légumes, il faut manger des fruits, des légumineuses. En général, il faut essayer de privilégier tout ce qui est céréales complètes et il faut limiter les apports de sucre rapide. Bon, évidemment, tout ce qui est burger, soda, tout ça, on peut se faire un plaisir de temps en temps, mais ça ne doit pas être la base. Et donc, en fait, il faut déjà avoir les bonnes sources d'informations. Donc, on en parlera peut-être un peu plus tard. Il y a des sources d'informations disponibles sur le site de l'AVF. Et il faut vraiment essayer de se pencher sur cette question pour trouver le bon apport nutritionnel. Après, on n'a pas vraiment les mêmes besoins suivant l'activité qu'on a. En fait, c'est ça qui est important. Si on court, par exemple, 1 heure par semaine, on va pouvoir avoir une alimentation normale. Si on commence à courir 2-3 fois par semaine, voire 4 fois par semaine, si on prépare un semi ou si on prépare un marathon, là, il faut vraiment adapter son alimentation parce que le corps va avoir des besoins nutritionnels supérieurs. Donc, il faut adapter son alimentation par rapport à son activité.
Alors, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre parce que tu n'es pas non plus médecin nutritionniste, je pense. Par rapport à des jeunes ados qui font du sport, parce qu'il y a beaucoup de jeunes ados qui font du sport, et on a de plus en plus de jeunes ados qui veulent devenir ou qui sont végétariens ou végétaliens. Là, je pense qu'il faut aussi qu'ils aient un équilibre alimentaire, peut-être encore plus précis ou encore plus sérieux, ou qu'ils se fassent suivre par un professionnel.
Oui, c'est toujours une bonne idée de se faire suivre. Il y a pas mal de nutritionnistes qui sont spécialisés dans le végétarisme aujourd'hui. C'est toujours bien de se faire suivre. Moi-même, je l'ai fait d'ailleurs pendant un certain temps et ça m'a aidé. Mais en fait, il faut le truc, c'est qu'il faut vraiment tester ce qu'on arrive bien à digérer. C'est ça qui est important parce qu'en fait, Quand on est, euh, quand on prépare une course, par exemple, il y a certains aliments qu'il vaut mieux éviter, genre 24 heures avant la course. Tout ce qui est à base de fibres, par exemple, tout ce qui est fibreux, c'est difficile à digérer. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut tester avant une compétition pour savoir ce qu'on supporte, ce qu'on ne supporte pas. Moi, par exemple, je ne suis pas forcément un bon exemple parce que moi, j'ai du mal à digérer les légumineuses, par exemple.
Donc, mais je pense que tu n'es pas le seul. Tu ne sois pas sportif ou pas, c'est peut-être le point noir un petit peu de tous les véganes.
Donc, j'ai trouvé des solutions. Je les mélange avec du riz, avec du quinoa. Je rajoute du cumin. Le cumin, ça aide à mieux digérer les légumineuses. Mais on peut toujours trouver des solutions.
Et pour la récupération après une épreuve ou après, par exemple, pour un marathon, pour des épreuves quand même qui sollicitent beaucoup le corps, il y a des points d'intention pour quelqu'un qui serait végétalien en termes d'alimentation pour la récupération?
Alors, les points importants à surveiller, c'est vraiment pour ceux qui sont véganes, déjà, il faut absolument se supplémenter en B12 parce que ça, c'est vraiment important. Ensuite, les points à surveiller, c'est l'apport en fer, le taux d'hémoglobine dans le sang. Je donne mon sang régulièrement, donc je sais toujours à peu près où j'en suis. Et c'est vrai que moi, je me supplémente en spiruline, ça me permet d'être bien. Mais après, j'ai des amis véganes qui, eux, n'ont pas forcément besoin de se supplémenter en spiruline. Là encore, ça dépend vraiment de chacun. Donc, la B12, la spiruline, l'hydratation aussi, c'est très important quand on fait du sport. Il faut toujours boire.
Et boire de l'eau?
Il faut boire 1,5 litre par jour. Donc, c'est quand même pas rien. Et quand on est en compétition, et l'été, par exemple, là, il faut boire encore plus, évidemment. Voilà, les choses à surveiller, c'est ça. Et se faire suivre aussi, c'est comme tu disais, c'est une très bonne idée.
Jean-Christophe, tu en parlais un petit peu tout à l'heure. L'AVF, sur le site, il y aurait des fiches un peu conseils ou de la documentation pour donner des points de repère pour ceux qui voudraient faire du sport tout en étant végétalien ou végétarien.
Oui, alors vous allez sur végétarisme.fr. Il y a une section qui s'appelle « Végé au quotidien ». Et une sous-famille qui s'appelle sport. Et là, vous tombez sur une page qu'on a faite il y a quelques années et qui est assez bien renseignée et qui rentre dans les détails et qui vous explique exactement les points à surveiller quand on veut faire du sport. Tu parlais de récupération, je ne t'ai pas répondu. Mais il y a eu pas mal d'études sur le sujet et apparemment, les sportifs végétariens ou véganes auraient une meilleure récupération que les sportifs pas véganes. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Et c'est vrai que la récupération, en fait, l'alimentation, elle est aussi importante avant une course, pendant une course et après une course. En fait, c'est vraiment une science qu'il faut maîtriser. Moi, ça fait depuis 2010 que je fais de la course à pied et je continue à apprendre des choses et à améliorer mon alimentation, surtout quand je fais des trails qui sont super longs parfois. Là, c'est vraiment difficile de s'alimenter, donc il faut maîtriser le sujet.
Alors, toi, tu fais de la course à pied, tu nous as donc parlé plus particulièrement de la course à pied. Et est-ce que tu penses qu'une alimentation végétalienne est parfaitement compatible avec la pratique d'un autre sport, et y compris des sports de haut niveau? C'est pas moi, des sports. Et puis, tu nous diras aussi si tu connais des sportifs de haut niveau qui sont véganes.
Potentiellement, l'alimentation végétalienne ou végétarienne est compatible en fait avec tous les sports. Du moment qu'on a un apport nutritionnel suffisant par rapport aux efforts qu'on fait, il n'y a aucun souci. Les points à surveiller, on les a évoqués un petit peu avant. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a pas mal de sportifs de haut niveau. On parle souvent de Carl Lewis, hein, qui était un grand athlète américain. Et moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Scott Jurek, qui est un coureur de fond vegan d'origine américaine et qui lui est spécialisé dans les ultras. Donc lui, il fait des courses de 100, 200, 300 km, voire plus, tout en ayant une alimentation vegan. Et je conseille à tous nos auditeurs de lire ses livres qui sont vraiment des mines d'informations vraiment précieuses.
Ok, et puis il y a aussi le coureur automobile, dont j'ai oublié le nom, le super coureur automobile. C'est un autre type de sport, oui, de haut niveau, parce que là, il faut une endurance absolument extraordinaire.
Oui, tout à fait. En fait, il y a même un site qui est dédié aux athlètes vegan qui s'appelle Great Vegan Athletes, que vous pouvez trouver facilement sur Internet et qui donne des informations sur tous ces grands athlètes vegan. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y en a, beaucoup. Dans le monde entier, il y en a beaucoup.
Comme les sœurs Williams, il y a le tennis. Enfin, tous les sports sont enfin touchés par le véganisme.
Oui. Oui, Jean-Christophe, tu parlais de Carl Lewis. Pour les auditeurs peut-être qui ne connaissaient pas, tu peux juste rappeler peut-être, parce qu'il était athlète, mais c'est les sports qu'il pratiquait vraiment, c'était quoi?
Ben lui, il était de mémoire, il était spécialisé dans le 100 mètres et le 200 mètres, dans ces pratiques-là.
D'accord.
Voilà. Okay. Il était vegan à une époque où on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc, voilà, mais alors, il y a d'autres exemples.
Et dans ta pratique sportive, est-ce que toi, tu as rencontré parfois des attitudes négatives par rapport au fait que tu sois vegan, voilà, sportif et vegan?
Franchement, ça ne m'est pas arrivé très souvent. C'est vrai qu'on court avec un t-shirt où il y a écrit équipe végétarienne. Donc, ça arrive qu'on... Moi, ça m'est arrivé quelques fois d'avoir des remarques, genre un coureur qui me dépasse en disant « Ouais, ce soir, je vais me faire un bon steak, ça va être top. » Voilà, c'est plutôt plutôt des boutades que des attaques ouvertes.
Alors, il paraît que tu es écrivain.
Oui.
Tu as notamment écrit récemment un livre sur le compositeur Ennio Morricone. Moi qui fais partie de la VF, je ne savais pas, j'ai appris ça grâce à Jérémy. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Alors moi, je suis passionné par la musique et le cinéma depuis mon plus jeune âge. Et en fait, je me suis rendu compte il y a quelques années qu'il n'y avait pas en France de livre sur Ennio Morricone. Et je me suis dit, c'est quand même dommage. Le dernier livre daté des années 80, il n'était plus édité. Donc, je me suis dit, il y a vraiment un vide à combler à ce niveau-là. Et j'ai longtemps hésité parce que Morricone, c'est quand même un sujet énorme. Il a écrit beaucoup, beaucoup de musique. Et j'ai fini par me lancer. Et ça m'a pris 3 ans de travail pour écrire ce livre hein, qui est un pavé. Hein, il fait plus de 900 pages. Et j'ai fait beaucoup de recherches. Je suis allé en Italie rencontrer des musiciens avec qui il a travaillé. J'ai interviewé des réalisateurs, etc. Et voilà, le livre est sorti en novembre 2020. Et il remporte un assez grand succès. Je suis assez content.
Félicitations alors.
Merci. Et puis voilà, là je travaille sur d'autres projets d'écriture. J'ai écrit un roman pour adolescents que j'essaye de faire éditer là en ce moment.
Et qui traite de quoi?
Qui parle de monde d'univers parallèle et de physique quantique.
Ah, voilà. Tout autre sujet.
Voilà. Et il faudra nous tenir au courant quand il va sortir alors.
Je vous tiendrai au courant. Ah. Pas de souci.
Eh bien, merci Jean-Christophe pour avoir participé à notre émission. Et pour conclure, est-ce que tu peux présenter le morceau d'Ennio Morricone que tu as choisi pour la pause musicale à venir?
Alors, c'est un morceau qui est issu d'un téléfilm italien des années 80 qui s'appelle Nana, qui est basé donc sur le roman d'Émile Zola. Et c'est un morceau très lyrique qui, je l'ai choisi parce que je trouve qu'il symbolise bien, enfin, qu'il montre bien un petit peu le côté lyrique de Morricone et son sens de la mélodie qui est assez étonnant. Et moi, c'est un morceau qui m'emporte et que je trouve très émouvant. Et j'espère que ça sera le cas aussi pour nos auditeurs.
Alors, vous écoutez toujours ABC des Vagues sur radiocampustour.com. Et maintenant, Elisabeth, c'est le temps de conclure l'émission, comme d'habitude, avec l'agenda.
Bien, ben moi, je suis très fatiguée parce que j'ai entendu course à pied, trail, marathon, moi qui ne suis pas très sportive, je ne sais pas toi, Jérémy. J'ai même entendu parler de calisthenics, sport que je ne connaissais pas et que j'ai découvert. Donc, je vais revenir aux choses beaucoup plus pratiques et je vais vous parler du programme à venir. Alors, comme les récoltes, nous sommes en train de semer et de travailler non pas la terre, mais les différentes animations que nous aurons dans les prochains mois. Tout d'abord, au mois de mai, le samedi 7 mai à Mont-Louis, nous aurons un stand le collectif Transition pour Mont-Louis, où nous aurons un stand, des ateliers cuisine. Il y aura entre autres un village associatif, des visites guidées de lieux éco-responsables et plein d'animations. Mais je vous en reparlerai le mois prochain. J'aurai peut-être plus de détails. Le samedi 4 juin à Tours, la nuit des studios au cinéma studio, c'est de retour. Grosse préparation de la part des associations qui sont chargées de proposer des plats pour les spectateurs toute la soirée et la nuit. Le samedi 18 juin à Tours, la Vegan Place et le Primaya, avec de nombreuses associations partenaires, des food trucks, des commerçants vegan. Donc, il faudra vraiment venir, ce sera très, très, très intéressant aussi. Le jeudi 30 juin, je vous avais parlé d'une soirée avec le CNP à Tours, au studio, le cinéma le studio. Et là, je vais vous dévoiler le film qui sera proposé, c'est le film « Empathie » de Ed Antoja. C'est un film espagnol qui date de novembre 2021 et qui raconte le parcours d'un jeune journaliste qui s'interroge sur l'alimentation et les animaux et le véganisme. C'est très, très intéressant. Et bien entendu, Terre du Son, les 8, 9 et 10 juillet à Mont. Pour terminer, comme d'habitude, pour nous suivre et communiquer avec nous, voici les liens. www.végétarisme.fr, Facebook avf37.vg et notre adresse mail avf-tour@végétarisme.fr et sur Instagram avf.tour. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Toca, 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 toca.